Alors, je parlais donc des questions religieuses à l'époque de Vauban, mais c'est aussi à l'époque de Louis XIV, en fait, hein, puisque les deux personnages sont quasiment des contemporains à quelques années près, hein, puisque Vauban naît en 1633 et Louis XIV en 1638. Hein, donc, voilà. Et ils vont se côtoyer. Alors, au départ, Vauban est un peu invisible aux yeux de Louis XIV, puisque c'est un simple ingénieur, mais petit à petit il va monter en grade et se faire remarquer du roi lors des sièges. Hein, voilà. Alors, bon, ça ne sera pas une révélation, je pense, mais il faut quand même insister, hein, sur l'importance de la religion à l'époque, hein, qui est centrale dans la société, qu'elle structure largement. La monarchie française, c'est une monarchie de droit divin. Hein, le roi est censé tenir son pouvoir de Dieu, dont il est en fait en quelque sorte le lieutenant sur terre. Hein. Il est sacré à Reims, et il dispose de pouvoirs magiques, enfin en tout cas selon les croyances de l'époque. Hein, par exemple, il peut guérir les écrouelles. Vous avez ici un magnifique tableau de Philippe de Champaigne, hein, daté d'environ 1650, où justement on voit bien le jeune Louis XIV, hein, il a à peu près 12-13 ans, hein, qui remet son sceptre et sa couronne donc à la Vierge. Hein. Il faut quand même rappeler que c'est Louis XIII, hein, qui avait consacré son royaume à la Vierge. Et donc là, on a Louis XIV qui remet ses insignes de pouvoir, en quelque sorte, accompagné bien sûr de son jeune frère, mais également de sa mère, Anne d'Autriche, qui est alors la régente. Bon, je ne dirais pas que c'est elle qui exerce véritablement le pouvoir, puisque c'est davantage en fait le cardinal de Mazarin. Le contexte également, c'est celui de... Alors, on disait autrefois la contre-réforme, aujourd'hui plutôt la réforme catholique, hein, c'est-à-dire qui commence au Concile de Trente, hein, donc dans les années 1545-1563. Donc, le catholicisme se réforme, améliore la formation du clergé et se montre également offensif, hein, par rapport au protestantisme, hein, et reconquiert bien. Certains territoires et en tout cas certaines populations. Bien sûr, les jésuites, hein, créés pendant cette période symbolisent ce dynamisme, mais d'autres ordres connaissent un réel succès. On peut penser aux trappistes, aux carmélites, hein, par exemple. Alors, venons-en à Vauban. Alors, Vauban est né dans le Morvan, hein, aux confins du Nivernais de la Bourgogne, dans une famille de petite noblesse. Il est imprégné de religion catholique. Alors même si il est probable, hein, qu'un de ses aïeux a été protestant quelque temps, mais en tout cas la famille ensuite est retournée au catholicisme. Alors Vauban, c'est Sébastien le prêtre, hein, de son nom, hein, seigneur de Vauban, et il tient son prénom de son parrain qui est un prêtre. Hein, qui était Sébastien Clairin, voilà. Alors il devient ensuite ingénieur du roi, commissaire général des fortifications, et à cette occasion, eh bien, parcourt le royaume, disons, dans tous les sens, hein, et il devient un observateur assez critique, hein, de la situation du royaume, et finalement Vauban s'intéresse à tout, hein, il s'intéresse... à l'économie, mais également aux populations, même aux simples paysans, et y compris aux questions religieuses quand elles ont, disons, certaines conséquences, par exemple sur la vie des Français ou sur l'économie. Et justement, l'époque est particulièrement agitée, hein, en ce qui concerne les affaires religieuses. Alors, c'est ce qui structurera ma conférence. Donc, se pose d'abord la question protestante, avec, enfin, disons que Louis XIV entend régler à sa manière, hein, c'est-à-dire en fait par la force, hein, et donc ça va être la révocation de l'édit de Nantes. Le catholicisme est également divisé, avec notamment le problème, si on peut dire, la question janséniste, hein, et puis également le gallicanisme. Et puis enfin, quoique marginal, disons, l'impiété, voire l'incroyance, eh bien, progresse, hein, notamment dans l'armée. forcément bien connu de Vauban, hein, et qui écrit sur le sujet. Enfin, disons, il écrit sur l'armée, mais il consacre certains passages à cette question de la religion à l'intérieur de l'armée. Alors, tout d'abord, la question donc protestante et la révocation. Pardon, je vais trop vite. Donc, la révocation de l'édit de Nantes. Alors, rappelons que l'édit de Nantes, hein, en 1598, a été voulu par Henri IV, eh bien, pour mettre fin aux guerres de religion et donc établir la paix religieuse en France, hein, en accordant un certain nombre de droits aux protestants. Hein, et droits de culte, alors avec quand même certaines limites. Hein, la religion protestante n'est pas mise sur un pied d'égalité avec la religion catholique, mais disons, les protestants peuvent quand même globalement pratiquer leur religion. Une soixantaine d'années plus tard, eh bien, la situation a évolué. L'édit de Nantes reste toujours valable, mais la religion réformée s'est affaiblie. Alors tout d'abord, les protestants avaient obtenu avec l'édit de Nantes des places de sûreté, c'est-à-dire des places fortes où ils pouvaient avoir des garnisons. Donc ils les ont perdues. Et Richelieu a, disons, reconquis ces places fortes. Hein. La plus connue, eh bien, c'est La Rochelle, hein, à l'issue d'un très long siège qui laisse vraiment exsangue, hein, la population. La Rochelle est reconquise, et donc c'est la fin des places fortes protestantes. Alors, par ailleurs, disons que la plupart des grands nobles qui étaient protestants, eh bien, ont tendance à abjurer leur religion. Hein. Donc les protestants vont être peut-être petit à petit, disons, privés de leur leader naturel, c'est-à-dire les nobles. Certains temples également disparaissent progressivement, suite en général à des décisions de justice. Alors là, vous avez une gravure, hein, de la démolition du temple de Charenton, qui était le principal temple à proximité de Paris. Alors, ici, c'est juste après la révocation de l'édit de Nantes, hein, en 1685, mais d'autres temples, souvent plus modestes, ont été fermés et détruits, eh bien, disons, dans la première moitié du XVIIe siècle, et puis, disons, jusqu'aux années 1680. On pense que les réformés, à l'époque, représentent 5-6% de la population française, hein, à peu près. Alors, on ne peut pas dire que Louis XIV, avant 1685, les persécute, mais il leur cause, disons, quelques tracasseries. Hein. Alors, donc, des fermetures administratives, si on peut dire, hein, de temples, l'exclusion des protestants, hein, qu'on appelle à l'époque les huguenots, hein, donc l'exclusion d'un certain nombre de professions. Et puis, au contraire, les conversions sont encouragées puisqu'une caisse des conversions est créée. Et donc, ça peut évidemment tenter, eh bien, certaines familles protestantes qui ont des difficultés économiques, hein, ou même des familles pauvres, hein, bien sûr. Alors, à partir de ce contexte, eh bien, des intendants provinciaux, hein, c'est-à-dire ce sont les ancêtres des actuels préfets, on peut les présenter comme ça, certains intendants font du zèle. Et en 1681 commence ce qu'on appelle les dragonnades à l'initiative de René de Marillac, qui est intendant du Poitou. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, les dragonnades, elles sont le fait des dragons, hein, c'est une catégorie de soldats intermédiaire entre les fantassins et les cavaliers. Hein, et donc des soldats sont envoyés loger chez les protestants, hein, dans les familles protestantes. Bon, à l'époque, c'est encore courant d'envoyer des soldats loger chez l'habitant. Il n'y a pas tellement de casernes, sauf que là, on en envoie beaucoup chez les familles protestantes et ils ont loisir pour se comporter comme ils veulent, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent se servir, piller allègrement, à discrétion, et même à la limite, on les encourage, hein. Et donc, leur comportement violent rend la situation souvent intenable, hein, aux protestants qui peuvent s'en débarrasser. Eh bien, en se convertissant au catholicisme. Et donc, c'est ce que vont faire un certain nombre d'entre eux. On a un témoignage intéressant, celui de Jean Migaud, qui était un maître d'école protestant qui vivait dans les actuels Deux-Sèvres, hein, et qui a écrit ses mémoires, qui ont été publiées, bon, il y a déjà, je pense, une bonne vingtaine d'années. Je vous cite un extrait. On voyait que les cavaliers, donc les cavaliers ou les dragons, hein, on voyait que les cavaliers n'étaient logés que chez ceux de notre religion. et qu'ils n'en partaient qu'après avoir entièrement ruiné leurs hôtes. Alors un jour il est absent et donc ces dragons s'en prennent à sa femme. Ils la mirent dans un coin de la cheminée et ils apportèrent quantité de bois et allumèrent un feu qui se faisait sentir dès la moitié de la chambre, quoiqu'elle fût fort grande. Ils juraient et blasphémaient le nom de Dieu à leur ordinaire, disant qu'ils la feraient brûler si elle ne se voulait convertir. Bon, finalement, sa femme en réchappe et ne se convertit pas, et puis la famille va réussir à fuir la France, hein, quelques années plus tard, et ils vont se réfugier dans les actuels Pays-Bas. Voilà. Alors il y a quand même face à certains abus, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, il y a une interruption, mais les dragonnades reprennent de plus belle en 1685 et s'étendent d'ailleurs également non seulement en Poitou, en Aunis, en Saintonge, mais aussi en Béarn, en Languedoc, bon, c'est-à-dire en fait hein, les régions où les protestants demeurent assez nombreux. Hein. Il s'ensuit forcément des conversions massives, mais forcées. Louis XIV ne veut rien voir, ou ne veut pas savoir, et donc on l'avertit de ces milliers ou dizaines de milliers de conversions, et donc il y voit en fait le dépérissement naturel, entre guillemets, hein, de la religion protestante. Il pense que l'hérésie, hein, comme elle est appelée à l'époque, hein, l'hérésie se meurt. Si bien qu'il signe l'édit de Fontainebleau le 17 octobre 1685. Cet édit, eh bien, révoque l'édit de Nantes, hein, et donc le culte calviniste est complètement prohibé, hein, les pasteurs sont expulsés, sauf s'ils se convertissent. En revanche, les simples fidèles, eux n'ont pas le droit de quitter le royaume, interdiction. En fait, ils sont obligés de se convertir, mais ils n'ont même pas la possibilité de rester protestants en quittant la France. Et donc, ils deviennent automatiquement des nouveaux convertis. C'est comme ça que vont être nommés les anciens protestants. Il n'y a plus de protestants, donc plus de huguenots, donc ce sont des nouveaux convertis. Et donc, on leur impose le baptême et la messe. Alors, il y a une exception quand même, ce sont les protestants alsaciens, alors qui eux ne sont pas calvinistes, hein, mais sont luthériens. Comme l'Alsace a été rattachée récemment au royaume de France, eh bien, ils bénéficient, disons, d'une certaine liberté. Donc, les luthériens, eux, sont exemptés, ils n'ont pas à se convertir, ils pourront pratiquer leur culte. Mais sinon, dans le reste de la France, il ne doit plus y avoir de protestants. Donc les dragonnades eh bien, vont se calmer, hein, bien sûr. Mais par contre, certes, j'y reviendrai par rapport à ce qu'a écrit Vauban, hein, un certain nombre de protestants, malgré l'interdiction royale, vont quitter la France et se réfugier dans des pays, justement, bah, en général, à majorité protestante. Hein, c'est l'exemple de la gravure que vous avez ici, eh bien, elle a été réalisée en dehors de France, hein, pour critiquer eh bien, cette politique de conversion forcée, de dragonnade. Hein. Vous avez ici un dragon qui force un protestant à signer sa conversion, et on voit bien que le fusil du dragon a une croix, hein, à son extrémité, donc hein, ils sont appelés ironiquement les nouveaux missionnaires, mais ce sont des missionnaires armés qui ne laissent aucune, en fait, aucune liberté. Alors venons-en maintenant à Vauban. Eh bien Vauban, pendant cette période, comme une grande partie de sa vie, hein, parcourt la France, visite les fortifications, et il voit ces persécutions à l'œuvre. Et il en est quand même choqué. Un témoignage d'une de ses lettres, hein. J'ai vu des femmes prisonnières dans des caves pratiquées dans les piles du pont Saint-Esprit parce qu'elles étaient huguenotes et qu'elles ne se voulaient convertir. Alors, ça ne veut pas dire que Vauban désapprouve, disons, l'objectif de Louis XIV d'unification du royaume, mais il n'est pas d'accord avec les moyens. Il écrit également: Ce projet si pieux, si saint et si juste, dont l'exécution paraissait si possible, loin de produire l'effet qu'on en devait attendre, a causé et peut encore causer une infinité de maux très dommageables à l'État. Donc, en fait, il ne faudrait pas, d'après lui, utiliser la force. D'ailleurs, pour lui, les nouveaux convertis ne le sont pas. Restent en fait des crypto-protestants en quelque sorte, comme il le dit plaisamment dans son style assez fleuri, hein, dans une lettre, lorsqu'il a traversé le Haut Languedoc. Cévennes et Vivarais, pays pavé de nouveaux convertis qui sont catholiques comme je suis mahométan, c'est-à-dire musulman. Et d'ailleurs, l'association est amusante puisque on retrouve cette association dans l'almanach hein, pour l'année 1686, donc celle qui suit l'abolition de l'édit de Nantes, où on voit que l'almanach, eh bien, en fait, associe les musulmans, car ils ont été vaincus, les Turcs ottomans ont été vaincus à Vienne en 1683, bon, pas tellement par Louis XIV, hein, mais ils s'y associent. Il avait quand même envoyé des contingents contre les Turcs. Et puis de l'autre côté, on a les protestants, et notamment Calvin, qui est si piétiné. Hein, voilà, donc ces deux religions ou hérésies sont associées et donc voilà, sont vaincues par l'Église catholique. Et donc c'est assez amusant que Vauban aussi les associe en quelque sorte. Dans un autre passage, il affirme: « On ne saurait dire s'il y en a un seul de véritablement converti. » Et en effet, beaucoup de huguenots eh bien, continuent de pratiquer leur foi, disons, en cachette, hein, secrètement, dans des assemblées clandestines, ce qu'on a appelé les assemblées du désert. D'ailleurs, Vauban n'est pas le seul à le remarquer. Hein. L'intendant de La Rochelle, le Bégon, remarque d'ailleurs en 1688, hein, donc 13 ans après quand même l'abolition de l'édit de Nantes, que beaucoup ne font pas leur devoir de catholiques. On les oblige d'envoyer leurs enfants au catéchisme, aux instructions, mais leur opiniâtreté est si grande que ces remèdes ne produisent pas tout le fruit qu'on en avait espéré. Bien, donc on voit bien qu'il y a un problème quand même protestant. Et donc, outré par cette situation, Vauban rédige vers 1689 un mémoire pour le rappel des huguenots, alors mémoire qui reste manuscrit. Le célèbre ingénieur, donc, il développe plusieurs arguments pour fléchir le roi. Bon, il va d'abord essayer de montrer que la situation est négative et même néfaste hein, pour le royaume en entier. L'exode, en effet, qui suit la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, affaiblit le royaume. Malgré l'interdiction royale, Vauban dit que 80 à 100 000 personnes auraient quitté donc la France, se réfugiant dans des pays protestants, donc les actuels Pays-Bas, l'Angleterre, la Prusse hein, également. Bon, en réalité, on sait maintenant qu'ils ont été plus nombreux, au minimum 120 000. Mais bon, à l'époque, hein, la population française est assez mal connue et elle est en général sous-estimée en plus. Ces émigrés, en plus, d'après Vauban, affaiblissent l'économie. Il écrit: précipitant la ruine de nos arts et manufactures particulières, la plupart inconnues aux étrangers, qui attiraient en France un argent très considérable de toutes les contrées de l'Europe. Donc la fuite des protestants entraînerait une fuite des capitaux, en quelque sorte, et un ralentissement économique. Alors c'est vrai que dans les années 1690, il y a bien un ralentissement économique, mais qu'il y a aussi d'autres causes. Bon, il est possible que l'exode de protestants l'ait aggravé, mais bon, hein, ça n'est pas l'unique explication. Par ailleurs, il y avait quelques protestants dans les armées royales, en général, et donc ils partent, donc ils désertent. Mais ils désertent, mais comme ce sont des soldats, ils se mettent au service des armées des pays voisins, qui sont tous ennemis de la France. Donc, ce qui inquiète Vauban. Alors, le principal, c'était un maréchal, hein, le maréchal de Schomberg, qui est parti en Angleterre. Alors, lui a eu l'autorisation de Louis XIV, parce que bon, il était maréchal, il avait servi la France, donc Louis XIV l'a autorisé à s'exiler. Mais Schomberg, même s'il avait plus de 70 ans, n'entendait pas prendre sa retraite, et donc il s'est mis au service du roi d'Angleterre. Alors, il n'a pas combattu directement les Français, mais il a combattu les Irlandais, qui étaient les alliés des Français. Et puis, autre problème, ces protestants, eh bien, en fait, renforcent eh bien, les pays ennemis de la France, hein, les pays protestants, et qui sont en guerre hein, pratiquement permanente hein, contre le royaume de Louis XIV. Hein. Et les protestants de France pourraient à cette occasion représenter un danger. Vauban écrit « Les huguenots ne sont pas assez puissants dans leur royaume pour entreprendre quelque chose de considérable d'eux-mêmes, mais ils le sont assez pour pouvoir puissamment assister l'ennemi. » Hein, ça sera la hantise des huguenots français qui assistent l'ennemi, qui favorisent un débarquement anglais, par exemple. Alors, par contre, Vauban n'est pas totalement, disons, clairvoyant, parce qu'il avait traversé ses Cévennes. Hein, il remarque que Voilà, ils ne sont pas convertis, mais ils n'avaient pas du tout anticipé la révolte des Camisards. Hein, bon. Alors, le maréchal ne se contente pas de décrire la situation, de déplorer, il propose des solutions. Alors, bien sûr, un peu par provocation, il propose comme solution, eh bien, une nouvelle Saint-Barthélemy, on les tue tous. Voilà. Mais évidemment, ouais, il dit non, cette action serait exécrable devant Dieu et devant les hommes. Donc, il prône au contraire la tolérance. Il faut rallier, rappeler ce que les misères passées et les chagrins des conversions ont fait sortir du royaume et ménager ce qui reste. Donc en fait, il voudrait eh bien, qu'on mette entre parenthèses cette révocation de l'édit de Nantes, qu'on en revienne à l'édit de Nantes et puis qu'à force de douceur, petit à petit, on convertisse les protestants. Alors, Louis XIV a-t-il connaissance de ce manuscrit? Bon, il semble bien que personne n'ait osé ni le lui donner, ni le lui lire non plus, hein. Alors Vauban a quand même tenté une approche indirecte, hein, en l'envoyant à Louvois, qui était secrétaire d'État de la guerre, hein, et donc qui était le supérieur de Vauban, mais également bien qui était impliqué, hein, non ce, à travers justement les dragonnades en particulier, hein. Et par contre, Louvois qui soutenait cette politique de persécution. Malgré ça, quand Louvois reçoit le manuscrit de Vauban, il en accuse réception et il lui répond courtoisement: J'ai lu votre mémoire où j'ai trouvé de fort bonnes choses, mais entre nous, elles sont un peu outrées. J'essaierai de les lire à Sa Majesté. Bon, en fait, Louvois n'essaiera pas, hein, et donc personne n'en fera rien. En réalité, le roi Soleil n'aurait pas compris ses arguments, hein, parce qu'il entendait faire le salut de ses sujets, même contre leur gré. Vauban lui-même n'insiste pas davantage, car très vite, il a d'autres préoccupations, notamment la misère du peuple, des paysans. Il va s'intéresser à la fiscalité, aux impôts, hein, ça sera son ouvrage intitulé La Dîme royale, et donc il n'insiste pas sur les protestants. Hein. Ah, autre question qui se pose, c'est autour du catholicisme, ce que j'appellerais les tensions, hein, du catholicisme, autour du jansénisme et du gallicanisme. Alors le jansénisme, donc il faut rappeler que c'est donc une idée, hein, une idéologie, disons, qui tire son nom de Cornelius Jansen, hein, qui dit Jansenius en latin, qui était l'évêque d'Ypres. Alors vous l'avez ici, hein, sur cette diapo, donc au début du XVIIe siècle, hein, et qui, inspiré par saint Augustin, niait le libre arbitre et affirmait que seule la grâce divine est efficace et donc que seuls les prédestinés sont sauvés. En France, c'est notamment l'abbaye de Port-Royal, hein, qui va diffuser cette doctrine. Donc, abbaye de Port-Royal, là, vous avez un détail, hein, d'un tableau encore de Philippe de Champaigne qui représente une des abbesses, alors, de Port-Royal des Champs. Hein. La famille Arnaud, en particulier, eh bien, était très présente, hein, dans cette idéologie ou doctrine, disons, janséniste. Hein, donc c'est une doctrine qui se répand dans une partie du clergé et aussi parmi des laïcs cultivés, on pourrait dire des intellectuels, bon le plus célèbre, hein, c'est Blaise Pascal. Alors cette interprétation du catholicisme faisant la part belle à la conscience individuelle m'inquiète Louis XIV, donc qui malmène quelque peu ses religieuses. Et notamment, il expulse, dans les années 1660, il expulse les religieuses de Port-Royal à Paris. Dans leur annexe, si on peut dire, Port-Royal des Champs, hein, c'est bien ce qui est représenté par cette peinture de Philippe de Champaigne, hein, donc qui était en vallée de Chevreuse. Alors ensuite, il y a quelque peu un apaisement, mais de nouvelles tensions ressurgissent après 1690. Alors pourquoi? Parce qu'elles sont liées à un autre personnage, hein, que vous avez ici, le père Quesnel, alors qui était un prêtre de l'ordre de l'Oratoire. Et qui écrit un ouvrage, enfin plusieurs ouvrages, mais notamment un Nouveau Testament commenté qui popularise la doctrine janséniste et qui la fait donc connaître à un nombre plus important de sujets du roi. Alors, ces ouvrages sont condamnés par le pape Clément XI, hein, qui ordonne de brûler son livre, mais le haut clergé français est un peu réticent, hein, et notamment parce que, y a une volonté de défendre les libertés de l'Église de France. Alors, Louis XIV, quand même, lui entend. Il a fait la paix avec la papauté, je vais y venir dans quelques minutes, et donc il entend défendre, enfin plutôt condamner les Quesnel et donc et ses ouvrages. Hein. Bon, Quesnel, lui, s'est réfugié en Belgique, enfin l'actuelle Belgique, puis en Hollande. Hein. Et donc ce qui fait qu'en 1709, hein, les religieuses de Port-Royal, donc cette fois-ci des Champs, sont expulsées. Et l'abbaye est totalement rasée, hein, même le cimetière disparaît. Hein. Voilà. Et Louis XIV va même plus loin, puisqu'en 1713, il contraint le Parlement de Paris à enregistrer la bulle Unigenitus, qui condamne sans une proposition eh bien, de tirer des ouvrages de Quesnel. Alors, sauf que, bon, on est tout à la fin du règne de Louis XIV, là, hein, en 1713, et la querelle rebondira un peu plus tard. Sous le règne de Louis XV, avec même certains évêques hein, qui se déclareront ouvertement jansénistes. Mais disons que là, à la fin de son règne, Louis XIV peut avoir pensé régler le problème. Alors, une répression s'abat donc sur les jansénistes, mais bien sûr, elle est sans commune mesure avec celle qui touche les protestants. Hein, puisque une partie du haut clergé français. Hein, eh bien, à adopter cette doctrine, hein, et puis également des élites, hein, des parlementaires, hein, voilà, donc voilà, qui ne vont pas être trop ennuyés, hein, finalement. Vauban, de son côté, lui, reste totalement étranger à ces querelles, hein, qui concernent qu'une mince élite, et bon, voilà, ça ne le concerne pas vraiment. Alors, par ailleurs, donc Louis XIV, hein, eh bien, est un roi absolu de droit divin, et donc il entend être totalement ou le plus possible indépendant du pape, hein, et par conséquent exercer certains droits sur l'Église de France. Alors en 1673, il étend le droit de régal au diocèse du sud de la France. Alors de quoi s'agissait-il? Le droit de régal, en fait, c'était la perception des revenus d'un évêché vacant. Hein, lorsque, entre la nomination d'un nouvel évêque, bon, parfois plusieurs mois pouvaient s'écouler, donc le diocèse avait des revenus, et ces revenus revenaient dans les caisses de l'État, hein, c'est-à-dire dans les caisses du roi, mais uniquement dans les diocèses du nord de la France. C'est une loi qui ne s'appliquait pas dans le sud. Mais Louis XIV décide de l'étendre dans le sud, ce qui lui fera des revenus supplémentaires, hein, finalement. Mais il faut que ça soit accepté quand même par le clergé français. Donc, si bien que lors d'une assemblée extraordinaire du clergé en 1681, le clergé accepte cette extension du droit de régal, et Bossuet, hein, qui est personnage quand même emblématique, un hein, des grands théoriciens de la monarchie absolue de droit divin, hein, donc Bossuet fait alors voter par cette assemblée du clergé la déclaration des quatre articles, qui est un véritable manifeste de gallicanisme, hein, c'est-à-dire d'autonomie, hein, de large autonomie de l'Église de France. Cette déclaration des quatre articles affirme l'indépendance du roi, hein, en matière de religion, la supériorité des conciles œcuméniques sur le pape, et également la légitimité des libertés de l'Église gallicane. Bon, évidemment, le Saint-Père est fortement fâché, et donc c'est Innocent XI qui réplique en refusant d'investir des évêques. Hein, les évêques nouvellement nommés, oui, parce que c'est le roi qui choisissait les évêques, mais il fallait quand même qu'ils soient confirmés par le pape. Et donc le pape refuse d'investir ces évêques. Et donc la situation dure plusieurs années. En 1689, 35 diocèses n'ont plus d'évêques. Donc, ce qui est une situation bah, intenable, hein, puisque plus des, les, ça veut dire que le fonctionnement même de l'Église est perturbé donc, dans 35 diocèses. Donc, finalement, un compromis va être trouvé en 1693. Hein. Louis XIV renonce à la déclaration des quatre articles. Et le nouveau pape Innocent XII accepte l'extension de la régale. Donc c'est quelque peu donnant-donnant, Le pape garde une partie de son pouvoir, mais il accepte quand même que les évêchés du sud de la France, eh bien, versent un peu plus d'argent au roi. Alors Vauban a été célébré, hein, après sa mort surtout, pour son patriotisme, et en quelque sorte, il se montre plus gallican que le roi. Hein. Il écrit, alors vous avez ici la fin de l'extrait, hein. Il écrit: à l'égard de l'Église, conservez quant au spirituel tout le respect dû au Saint-Siège, mais quant au temporel, supprimez peu à peu tous les revenus ecclésiastiques qu'on peut et doit considérer comme un pur brigandage exercé sur tous les sujets de l'État. Donc il y va quand même un peu fort, hein. Donc pour lui, en fait, l'Église, se comporte pratiquement comme des brigands en prélevant un certain nombre d'impôts, de taxes, etc. Hein, et donc il voudrait l'en priver. Même Louis XIV, dans ses rêves les plus fous, hein, n'y a pas songé. Hein. Donc là, on voit que Vauban va beaucoup plus loin. Hein. Il va plus loin, mais c'est aussi un bon catholique, hein, parce qu'il est imprégné de cette réforme catholique dans une période où subsistent également un certain nombre, disons, de superstitions et où l'incroyance a tendance sans doute à se développer. Alors pour revenir en quelques mots, hein, sur ce qu'on a appelé la réforme catholique, le XVIIe siècle, hein, a été appelé parfois le siècle des saints. Hein, bon, c'est François de Sales, Jeanne de Chantal, Vincent de Paul, hein, mais plutôt, c'est vrai, dans la première moitié du XVIIe. Mais l'achèvement de la réforme catholique se fait bien aussi dans la seconde moitié du siècle. Hein, on peut prendre comme témoin les fondations de séminaires. Hein. Alors, en France, donc 36 séminaires sont fondés de 1642 à 1660, mais 56 de 1661 à 1682, donc là on est dans la première partie du règne personnel de Louis XIV, et encore 12, hein, dans les années 1690. Hein, voilà. Et donc à cette date, 90% des diocèses en sont pourvus. Donc le clergé est mieux formé, les visites pastorales se multiplient également, et donc finalement les mœurs du clergé séculier deviennent de plus en plus exemplaires, à quelques exceptions près, hein, mais on n'a quand même plus beaucoup de curés ou de prêtres scandaleux comme il y a pu en avoir dans les siècles précédents. Presque tous les fidèles vont à l'office, hein, le dimanche et communient à Pâques. Alors certes, on pourra dire qu'il y a une certaine pression de l'Église et une pression sociale, hein, mais il y a aussi quand même un caractère volontaire fervent, hein, qui se traduit notamment, eh bien, par tous les dons qui sont faits à l'Église, hein, et notamment pour, par exemple, commander des tableaux, des retables, etc. Hein, c'est quand même la grande période, hein, et donc on peut pas, enfin, les personnes qui ont donné, bon, étaient sans doute animées par leur foi, peut-être leur salut également, mais voilà, personne ne les a forcés, hein, en tout cas. Bon, certains ordres religieux aussi sont introduits en France et prospèrent, hein, comme les Ursulines, les Carmélites. Bon, c'est aussi la fondation de l'ordre de l'Oratoire, etc. Alors, Vauban est un bon exemple de ces Français imprégnés de cette réforme catholique, hein. Il est soucieux de ses devoirs religieux. Alors, par exemple, il finance la rénovation de l'église de Bazoches, hein, qui est Bazoches, dont il est le seigneur et où est implanté son château. Il s'y fera d'ailleurs inhumer dans une chapelle qui porte le nom de son saint patron, donc Saint Sébastien. Et puis, bien sûr, Vauban a construit, bah, de nombreuses places fortes, hein, mais également parfois des villes ou des. Parfois, c'est resté à l'état de village, mais bon, des villes nouvelles, hein, par exemple. Près d'ici, mon dauphin. Et à chaque fois, donc, il n'envisage pas ses créations, évidemment, sans édifice religieux, hein, sans église ou chapelle. Et il se préoccupe quand même que ces édifices religieux aient une taille suffisante pour accueillir les fidèles. Fidèles qui peuvent être des soldats, hein, dans les citadelles. Par exemple, pour la citadelle de Lille, hein, qui est ce qu'on appelle son premier chef-d'œuvre, eh bien, il y a une chapelle de construite, mais il considère qu'un seul prêtre, ça n'est pas suffisant. Donc il demande comment dire, le déplacement, mais déplacement virtuel, d'une chapelle de Lille à l'intérieur de la citadelle. C'est-à-dire, en fait, ça sera les revenus de la chapelle et le chapelain, surtout, qui seront affectés à la chapelle de la citadelle. Il s'en explique que, bon, évidemment, ça veut dire que le ministre de la guerre, hein, Louvois, va devoir financer un petit peu plus. Et donc, Vauban s'en explique. Hein, il dit, vous ferez une œuvre de piété et de justice tout ensemble. De piété en ce que vous serez cause que nous vivrons en chrétiens et non en bêtes. De justice parce que vous laisserez moyen de subsister à ce pauvre prêtre. Donc on voit bien que hein, les deux préoccupations de Vauban, d'une part, voilà, il faut que tous les soldats puissent aller à l'office, hein, et donc ils peuvent être 1 300, donc. Alors, il faudra plusieurs services, hein, et donc au moins deux prêtres, hein, ça serait mieux. Alors, soucieux des devoirs religieux, mais également il est soucieux des conditions de subsistance des pauvres prêtres. Et il dit, ben voilà, il y a un pauvre prêtre là qui est à Lille, autant qu'il serve la citadelle, il sera mieux rémunéré. Et donc ça ira pour le mieux, tout le monde sera satisfait. Bon, il souhaite évidemment aussi une certaine qualité architecturale hein, pour ces édifices religieux. Hein. Bon, dans un style quand même qui est généralement sobre, hein, mais c'est aussi un peu ce qu'on a appelé le style jésuite, hein, souvent. Alors, avec quand même, j'allais dire sans ostentation, ça dépend, parce que bon, on a l'exemple de Montdauphin. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que le chœur qui a été bâti, mais enfin, a priori, une église assez vaste a été prévue, même si Vauban envisageait le développement de Montdauphin, il pensait que ça pourrait devenir une ville, ça n'a jamais été le cas. Et puis, il y a bien sûr le cas de Briançon avec la collégiale qui est quand même implanté, bon, on ne le voit pas très bien ici, hein, mais bon, vous connaissez, qui est implanté dans un bastion, hein, ce qui est quand même pas du tout, enfin, c'est même unique. Hein. Alors, bon, c'est souvent expliqué aujourd'hui par le fait, voilà, on a implanté l'église dans un bastion parce que si les ennemis avaient assiégé la ville, ils n'auraient pas osé tirer sur l'édifice religieux. Bon, on peut en douter, hein, parce que quand il y avait des bombardements, en général, voilà, tout était bombardé, et les édifices religieux pouvaient être également touchés. Hein. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une autre explication possible, hein, c'est-à-dire une volonté d'ostentation, de montrer l'Église, hein, justement, dans un pays où il y a eu, où pouvaient subsister encore des protestants, et eh bien de montrer le triomphe de l'Église catholique. Bon, et puis peut-être aussi des questions pratiques, hein, d'emplacement, mais voilà. Oui, et alors j'ai aussi une autre illustration. Bon, on n'a pas vraiment de plan de la main de Vauban, de plan d'édifice religieux. Hein, il en a peut-être existé, ben, notamment à Briançon, mais sauf que les plans de Vauban à Briançon ont été emportés par un de ses subordonnés, et donc en fait, la collégiale n'a pas été construite d'après les plans de Vauban. Alors par contre, là, on a donc un dessin réalisé par Vauban d'une église alors qu'il n'a pas construite, hein, qui existait, de Vervic, hein, donc on est à la frontière de la Belgique, là, hein, et donc qui montre bien quand même son intérêt pour les monuments religieux. Hein. Alors Vauban a quand même écrit aussi sur la religion, alors notamment dans des, vous l'avez ici, hein, dans un certain nombre de mémoires, dont la plupart, pas tous, ont été regroupés dans ce qu'il a appelé lui-même ses oisivetés, avec un petit peu d'humour, puisqu'il était quand même très occupé, mais c'est aussi ce qu'il pouvait, quand il avait du temps libre, bon, en fait, il écrivait sur les sujets qui lui tenaient à cœur. Et alors, il écrit notamment sur le clergé, avec bon, un langage qui lui est propre, hein, assez fleuri et assez direct, au point que parfois on l'a taxé d'anticléricalisme, ce qui est sans doute exagéré, mais en tout cas, il s'en prend parfois à certains religieux, enfin surtout aux moines, hein, aux clergés réguliers. C'est quand même une tendance qui commence à se développer à l'époque et qui va fleurir à l'époque des Lumières, hein, où finalement, petit à petit, on se dit, mais bon, en fait, les prêtres, oui, bon, ils sont utiles, mais bon, les moines, Bon, finalement, à quoi servent-ils? Ils sont enfermés, ils n'ont pas de lien avec les fidèles, etc. Et c'est un petit peu l'idée de Vauban, même s'il ne le dit pas clairement, mais il en parle notamment à propos des aumôniers. Hein, les aumôniers des régiments étaient souvent des moines et pas forcément hein, de très bonnes, qui n'avaient pas forcément mené une vie exemplaire auparavant. Voilà. Et donc il écrit, il est nécessaire d'avoir des aumôniers dans les régiments, qui soient habiles, de vie et de mœurs irréprochables, et non des moines défroqués, ignorants et libertins, comme on en voit dans plusieurs corps. Bon. Donc là, c'est clair. Et donc, il insiste, on n'est que trop porté au libertinage dans les troupes sans y être excité par le mauvais exemple de ceux qui sont préposés pour leur donner de bons. Hein. Donc, il a dû côtoyer certains moines, justement, défroqués, qui servaient comme aumôniers, et donc, voilà, il considère que leur conduite n'est pas adaptée. Bon. Oui, parce que donc il dit, hein, la plupart ne sont que des malheureux fugitifs ou chassés de leur couvent, donc chassés pour mauvaise conduite, hein, a priori. Donc lui, il voudrait justement que la paie des aumôniers soit augmentée pour qu'il y ait des personnes avec davantage de sens moral et qui puissent donner l'exemple aux soldats. Il critique aussi les moines qui sont dans l'entourage du roi, qui peuvent servir, qui sont parfois ses confesseurs. Hein. Du roi ou des rois en général. Je cite, les rois qui ont pour confesseurs des moines qui commettent le secret de l'État des gens peu affectionnés. La France ne trouvera jamais son ancienne splendeur qu'en ruinant la moinerie et faisant divorce avec Rome, non en altérant la religion. Donc pour lui, s'attaquer aux moines, ça n'est pas s'attaquer à la religion. Hein. Mais bon, le terme moinerie est quand même bien péjoratif. Hein. Alors par contre, disons, en matière religieuse, comme dans, je dirais, dans sa vie personnelle, hein, il n'aime pas l'hypocrisie. Et donc, il déplore un certain nombre de pratiques, hein, alors, y compris de la part de religieux, je vais y revenir, mais aussi de soldats. Hein. Et notamment, il est choqué par le fait que souvent, les armées ennemies, eh bien, dépendent de les cloches et emportent les cloches. Alors pourquoi? Parce que les cloches sont en bronze et donc elles ont de la valeur, c'est-à-dire qu'on va les fondre pour en faire des canons. Et donc les soldats récupèrent les cloches, peut-être qu'ils arrivent certains à les monnayer, etc. Bon. Et donc pour lui, c'est aussi grave que de voler du mobilier d'église. Hein, voilà. Et donc il écrit, il en parle dans deux lettres, justement, lorsqu'il fait, après le raid de Savoyard de 1692, eh bien, il passe à Briançon, Embrun, Gap, et donc descend ensuite jusqu'à la Méditerranée. Et il a été choqué par les déprédations des Savoyards, et puis surtout le fait qu'ils s'attaquent aux cloches, hein, qu'ils ont emporté les cloches. Il écrit donc à son supérieur. Je vous avoue que je veux grand mal aux dépendeurs de cloches. Je suis persuadé que ce sont meubles d'église, puisque c'est le lieu de leur demeure et que l'usage unique que l'on en fait est d'appeler les fidèles à leurs devoirs. Elles devraient donc être censées meubles de la maison de Dieu, auxquels on ne devrait pas plus toucher qu'aux châsses, ciboires, calices, soleil. Donc les cloches de la cathédrale d'Embrun ont disparu, alors pas celles de Gap, parce qu'en fait la montée au clocher a été, hein, vous savez qu'une grande partie de la ville a été incendiée, la montée au clocher a été détruite, et donc en fait les Savoyards n'ont pas pu emporter les cloches. Hein. Voilà. Alors il parle dans une autre lettre, un petit peu plus tard, il parle justement de Gap, hein, rétablissement de l'église de Gap qu'il faut financer. J'admire que le roi fasse scrupule de sacrifier une abbaye au rétablissement de l'église de Gap et qu'il n'en fasse aucun pour le rançonnement des cloches, qui est une chose qui me paraît odieuse et répugnée au christianisme. Je suis vieux guerrier, et même trop, mais je n'aurai point à rendre compte à Dieu de mes voleries, et si jamais je deviens grand maître de l'artillerie, je vous réponds que je ne ferai point dépendre les cloches. Donc, grand maître de l'artillerie qui cherche du bronze et donc éventuellement des cloches dans les pays ennemis, bien sûr. Hein. Voilà. Il n'hésite même pas à critiquer, alors on a vu les moines, mais même parfois à s'en prendre à plus haut hein, dans la hiérarchie, puisqu'il s'en prend également à un évêque, pas très très loin d'ici, hein, c'est l'évêque de Glandève, hein, région d'Entrevaux. Parce que cet évêque était, alors bon, c'est les querelles classiques hein, dans d'Ancien Régime, cet évêque était en bisbille avec le gouverneur d'Entrevaux, hein, qui était donc un homme de guerre, et Vauban prend la défense du gouverneur et considère que l'évêque eh bien, monte les habitants contre lui sans aucune raison, hein. Et donc là, il a des mots assez durs contre l'évêque, qui est César de Sabran. Ne voilà-t-il pas un joli prélat? Monsieur de la Contardière, c'est le gouverneur, est mieux dans les principes de la religion que lui, et serait capable de lui en faire de bonnes leçons, tout évêque qu'il est. Et donc il écrit ensuite que l'évêque, bon, eh bien, critique le gouverneur, enfin, dit du mal de lui, d'une façon assez hypocrite. Il conclut, ce ne doit cependant pas être là le caractère d'un évêque. Alors, malgré, donc voici pour la religion, alors il y a aussi des pratiques, j'allais dire, superstitieuses, hein, parce que malgré le triomphe du catholicisme, la réforme, la réforme catholique, eh bien, des pratiques d'origine païenne, superstitieuses, subsistent, hein, surtout dans les campagnes. Il y a des rites, bah, pour avoir des bonnes récoltes, préserver les troupeaux, même guérir les humains, etc. Donc la croyance en l'efficacité, disons, des pratiques magiques, hein, des guérisseurs, des jeteurs de sorts, bon, existe encore. Et l'élite n'est pas complètement épargnée. Hein, on peut se rappeler l'affaire des poisons, hein, qui a touché l'entourage de Louis XIV, hein, Madame de Montespan, hein, et la cour. Et donc on voit des grands nobles de la cour, eh bien, aller voir des sorciers, des magiciens, etc., acheter des philtres, bon, des poisons également, hein. Bon, donc, alors même si quand même les mentalités commencent à changer, à évoluer, hein, alors je vous ai mis là une illustration d'un imprimé. De la première moitié du XVIIe siècle, hein, il y avait beaucoup d'imprimés à sensation, alors soit sur des monstres qui étaient apparus, soit sur des phénomènes extraordinaires, des visions, etc. Ce type d'imprimé, quand même, tend à disparaître dans la seconde moitié du XVIIe siècle, hein, donc c'est déjà un premier signe. Et puis, l'élite ne croient plus beaucoup à la sorcellerie. Hein. Les procès en sorcellerie ont été très nombreux au XVIe siècle, encore au début du XVIIe siècle, mais après 1630, ils ont tendance à s'estomper. Un des derniers grands procès a lieu en 1670 en Normandie, et d'ailleurs, un certain nombre de personnes sont condamnées au bûcher, mais les jugements sont cassés par le roi. Quelques autres ont encore lieu dans des provinces périphériques, par exemple en Flandre en 1679, mais globalement c'en est fini, c'est-à-dire que les magistrats ne croient plus à la sorcellerie. Et donc des sorciers ou sorcières vont être encore condamnés, mais pour empoisonnement, pour tromperie, pour escroquerie, etc., mais plus pour sorcellerie. Donc il n'y aura plus de bûcher après cette date, hein, puisque... Pour l'élite, en tout cas, il n'y a plus vraiment de sorcellerie. Mais bien sûr, il y a encore quand même des superstitions qui perdurent. Et donc, je vous ai mis une illustration de Saint-Médard, hein, une statue de Saint-Médard. Pourquoi? Eh bien, parce que en 1692 a lieu le siège de Namur. C'est un des grands sièges, et donc siège victorieux de Vauban en présence de Louis XIV. Et ce siège a lieu, eh bien, dans des conditions météo épouvantables. On est au mois de juin, mais alors il fait même pas 10 degrés, il pleut pendant 3 semaines sans discontinuer. Bon, on est à l'époque, hein, qu'on appelle le petit âge glaciaire également. Et donc, qui invoque-t-on pour un temps plus propice? Ben, Saint-Médard. Mais sauf que les soldats l'ont invoqué, ils ne voient pas leur situation changer, donc ils sont tellement exaspérés qu'en 1692, eh bien, ils brûlent une statue de Saint-Médard pour en fait se venger. Hein. Bon, le saint n'a pas exaucé leurs vœux. Hein, voilà. Donc on peut penser que Vauban est témoin de ces pratiques superstitieuses. Par contre, est-il choqué? On ne sait pas. Hein, il n'a pas écrit à ce sujet. Alors, dernier point, l'impiété et l'incroyance. Vauban, lui, on est témoin parce que quand même cette impiété, cette incroyance sont quand même relativement répandues dans les troupes. Enfin, c'est ce qui peut laisser croire, même si ensuite il nuance son propos. Alors il écrit notamment « On voit pour l'ordinaire nombre de libertins dans les troupes ». Alors libertin, c'est au sens très général, c'est le comportement, mais c'est aussi libertin dans les croyances, hein, c'est-à-dire un libre penseur en quelque sorte. On voit pour l'ordinaire nombre de libertins dans les troupes, notamment parmi les jeunes gens adonnés au vin et aux femmes, qui, se croyant bien éloignés de leur fin, s'imaginent que l'impiété les fera passer pour des esprits forts et des gens intrépides qui n'ont peur de rien, et pensent donner une grande idée de leur courage et de leur esprit en insinuant qu'ils ne croient en rien. Et donc, Vauban en est choqué. Il préconise de les chasser des troupes, hein, si vraiment ils s'affirment comme ça, s'affirment incroyants, athées, hein, en quelque sorte. Il fustige aussi les blasphémateurs, qui sont nombreux. Je veux dire ces gens qui ne savent dire trois mots sans y mettre le nom de Dieu de travers, qui à la moindre émotion le prennent par la tête et par les pieds, et le renient à tout bout de champ. Bon, c'est sans doute assez classique parmi les militaires, mais lui-même en est choqué, et donc on peut penser qu'il ne jurait pas. Mais quand même très vite, il nuance son propos, hein, en disant que voilà, il y a une minorité qui a une conduite scandaleuse, mais voilà, ça n'est qu'une minorité. Au reste, il s'en fout de beaucoup que tous les officiers des troupes soient entachés des vices que je viens de reprocher à quelques-uns. Ceux-ci sont rares par rapport à plusieurs autres dans la conduite desquels j'ai vu beaucoup de probité et de religion. Je puis même dire en avoir vu qui, par leur bonne vie, pourraient donner de l'admiration aux capucins les plus réformés. Bon. Donc voilà, il y a des officiers qui donnent l'exemple. Alors par contre, c'est vrai qu'on voit ici qu'il évoque davantage les officiers et beaucoup moins les, disons, les simples soldats, hein, voilà, qui n'ont sans doute pas une conduite aussi exemplaire, hein, il le dit dans d'autres textes. Mais en tout cas, bon, il essaye de s'attacher à cette pratique des soldats, hein, on le voit par la construction d'églises et de chapelles donc assez grandes, hein, dans les citadelles ou les places fortes, hein, voilà. Et en tout cas, ce que perçoit Vauban là en cette fin du XVIIe siècle ou tout début du XVIIIe siècle aura tendance quand même au XVIIIe siècle, avec aussi l'influence des Lumières, à aller croissant, hein, dans les armées. Et donc c'est vrai que beaucoup d'officiers au XVIIIe siècle s'affirmeront comme assez détachés de la religion, hein, voilà. Au point que il y aura même des, comment dire, une sorte d'incompréhension avec des officiers, par exemple, espagnols. Les officiers espagnols, encore tout au long du XVIIIe siècle, restent très dévots en quelque sorte, et donc ne comprennent plus les officiers français qui, eux, se détachent de la religion. Bon, pas tous, mais pour une partie, disons. Alors, pour conclure, cette période donc qui correspond à la vie de Vauban, mais aussi au règne de Louis XIV, hein, une période de ferveur religieuse. Vauban n'y échappe pas, il est très influencé par la réforme catholique. Alors malgré, je n'en ai pas parlé, hein, malgré une vie privée qui n'est pas exemplaire, on pourrait en dire la même chose de Louis XIV, hein, mais disons, on sait que par son testament qui aurait dû être brûlé mais qui ne l'a pas été, on sait que Vauban avait plusieurs enfants illégitimes, de plusieurs femmes différentes, hein, bon, voilà, mais... Bon, j'allais dire que parmi les officiers, sans parler des personnes de la cour, c'est chose relativement courante à l'époque. En revanche, bon, il n'est pas janséniste, il n'est pas dévot non plus, et il ne s'intéresse pas aux querelles dogmatiques. Sa foi, en quelque sorte, est simple. Pour lui, la pratique est essentielle. C'est avant tout la pratique qui compte, plus que les spéculations. Disons, idéologique, hein, et spirituel. Toujours est-il que l'Église a gardé une image positive de lui, hein. Ainsi, le 15 mai 1933, on célèbre le tricentenaire de sa naissance, eh bien, l'archevêque de Sens, Monseigneur Felletin, célèbre une messe à sa mémoire dans son village natal, hein, Saint-Léger-Vauban. En 1983 encore, l'abbé Charron, donc curé de sa paroisse natale, prononce un serment où il glorifie le maréchal de Louis XIV. Donc on voit que voilà, les hommes d'église ont gardé une image positive de Vauban, mais bon, j'allais dire, quand comme tout le monde, pratiquement. En tout cas, assurément, dans une période troublée, notamment sur le plan religieux, eh bien, Vauban était un bon catholique et plus globalement, eh bien, on pourrait dire un honnête homme. Je vous remercie.